Alors bonjour à tous nos auditeurs d'Aligre FM. On se retrouve sur 93.1 pour une nouvelle émission de Philosophie au présent, une émission qui se veut la voix du Collège international de philosophie. Et on a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui, samedi 9 décembre 2023, en direct, Barbara Cassin, philosophe, philologue, helléniste, germaniste, médaille d'or du CNRS et académicienne. Bonjour Barbara.
Bonjour.
Autour de ce plateau, des directeurs de programme du collège, Nathalie Perrin. Bonjour Nathalie.
Oui, je précise, malheureusement, je ne suis plus directrice de programme, mais je suis au conseil scientifique du Collège international de philosophie. Et ravie d'être là et de dialoguer avec Barbara Cassin et vous-même, chers collègues du CIPH.
Donc Michele Saporiti, bonjour Michele.
Bonjour Stéphanie, bonjour Nathalie et bonjour Barbara Cassin.
Bonjour.
Alors Barbara Cassin, vous avez été très active au sein du Collège international de philosophie, le CIPH, et même à l'origine de notre émission radio. Également ancienne directrice de programme, présidente de son conseil d'administration, responsable éditoriale de sa revue Rue Descartes, vous êtes encore aujourd'hui membre du conseil scientifique. D'ailleurs, à l'occasion du congrès pour les 40 ans du CIPH, qui se termine aujourd'hui même, vous avez coécrit avec Julie Clarini, Michel Gendreau-Massalou et Alain-Patrick Olivier, hein, qui était d'ailleurs venu en septembre nous parler du CIPH, puisqu'il en est l'actuel directeur. Vous êtes venu nous parler de ce livre qu'on va bientôt pouvoir trouver en librairie, Une institution sans condition. Brève, non, vous êtes venu, vous avez coécrit ce livre, Une institution sans condition, brève histoire du Collège international de philosophie. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, le thème de notre émission se fait l'écho d'un autre, presque dernier livre, Ce que peuvent les mots, puisque nous allons nous demander aujourd'hui ce que peut une philosophe. Je dis presque dernier livre, puisqu'à l'occasion de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, dont vous êtes également commissaire scientifique, vous avez sorti un très bel ouvrage, Le livre de la langue. Donc en ce moment, bien sûr, pour vous, il y a beaucoup de derniers livres.
Le livre d'une langue.
Le livre d'une langue ?
Oui.
Oui, d'accord. Le livre d'une langue. Alors, avant de nous parler de ce que peut une philosophe, dans une seconde partie de l'émission, j'aimerais d'abord préciser ce qu'est une philosophe en revenant sur votre autobiographie philosophique, hein, Le bonheur, sa dent douce à la mort, publiée en 2020 chez Fayard, dans laquelle vous questionnez la possibilité d'être heureux malgré ou avec l'horizon de sa mort. Alors Barbara, j'ai envie de vous demander, est-ce que le ou la philosophe est quelqu'un qui a une conscience plus aiguë de sa finitude ? Et à cette occasion, est-ce que vous pourriez en même temps revenir sur ce très beau titre, hein, emprunté à Rimbaud, Le bonheur, sa dent douce à la mort ?
Alors, je suis pas du tout sûre qu'une philosophe ou un philosophe ait plus conscience de quoi que ce soit,
ouais.
Et ni de la finitude ni de la mort. Mais moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en perspective par rapport à ce que j'ai vécu ou ce que je vis, de mettre en perspective les philosophèmes que je peux avancer et ma manière de faire la philosophie. Et en fait, ça m'est venu. L'exemple même, c'est, je me suis intéressée, vous savez, peut-être à la sophistique, c'est-à-dire à ce que les philosophes bontins du genre Platon ont toujours trouvé du pseudo. Pseudo-philosophie, philosophie du pseudos et pseudo-philosophie. Mmh. Philosophie du mensonge, de la fausseté, on va dire, bon. Et ma première scène dans ce petit livre, elle, je crois qu'elle en dit long sur le rapport entre ce que c'est que vivre et ce que c'est que philosopher, pour moi. Je raconte comment mon petit garçon, Samuel, c'est-à-dire mon deuxième fils, qui avait peut-être un an, mais qui marchait à peine, hein, il était adossé appuyé au mur de la cuisine chez moi, qui est un mur en glace, en miroir. Bon, ce qui n'est pas très pratique, hein, pour une cuisine, je reconnais. Enfin bon, c'est parce que la cuisine est dans le salon. Donc ouais. Ça fait moins cuisine, donc il était adossé à ce mur, plutôt appuyé à ce mur, les mains comme ça. Mmh. Et je passe à côté de lui et je lui dis « Oh, toi, tu as fait caca dans ta culotte, tu pues !» Et il me regarde et il me dit « Non, maman !» Et puis, il se retourne vers la glace et il dit « Menteur !» Et j'avais trouvé ça tellement génial. Après, on ne sait plus quoi dire. Je veux dire, c'est quoi mentir, hein? C'était génial. Par rapport au stade du miroir, par rapport à tout ce que Lacan peut raconter aussi. Enfin bon, j'ai trouvé ça formidable. Et c'est ce genre de choses qui m'a guidée. C'est à partir d'anecdotes comme ça, si vous voulez, donc des anecdotes qui, en fait, vont très, très profond et vous remuent vraiment. Donc, c'est ça, ce livre, pour moi. Ouais. C'est une série d'anecdotes mises en perspective avec de la philosophie telle que je la fais.
Oui, c'est une autobiographie philosophique. C'est quand même un genre très particulier que vous avez inventé, en fait. voilà. Et oui, alors, Nathalie, tu voulais poser une question spécifique sur... ce que c'est qu'une femme philosophe,
oui,
peut-être
c'est le... Bon, je serais amenée à reparler un petit peu de votre parcours en deuxième partie de l'émission, parce que vous faites notre admiration ici autour de cette table.
Moi, je suis ravie.
Pour le parcours que vous avez, mais je ne veux pas dévoiler, je veux être comme Alfred Hitchcock et je garde le suspense pour la deuxième partie, pour la question. Mais bon, vous n'êtes pas pléthore en philosophie de femme. Bon, et j'aurais voulu vous questionner sur votre... Alors, c'est délicat, aujourd'hui, on est vraiment dans ces questions dégenrées, hein, on essaie de... Mais est-ce qu'il y a finalement pour vous une pensée de la femme philosophe ou une place de la femme philosophe? Comment vous vous êtes sentie en tant que femme? Et je suis désolée de le dire, on l'a encore vu récemment, enfin, je veux dire, dans les colloques, etc., la place du masculin est énorme, et c'est pas qu'il n'y a pas de femmes qui pensent, mais c'est peut-être qu'il y a des femmes qui n'osent pas penser. D'autre part, j'ai lu et j'ai vu certaines de vos émissions. Là, je conseille vraiment aux auditeurs d'aller vous écouter et vous voir aussi bien sur les rediffusions télévisuelles que sur les rediffusions de radio. Vous dites à un moment donné, c'en est fini de la femme séductrice. Désormais, la femme doit être. Alors, vous êtes, vous avez été, vous êtes et vous serez philosophe. Comment vous vous en êtes sortie de cette position de femme?
Oui. Mais je ne sais pas, mais je peux évoquer quelques points. Bon, il y a une phrase pour moi qui est terriblement féminine. Et c'est du latin, c'est « Graecia victa », la Grèce vaincue a vaincu son féroce vainqueur. Et « Graecia victa », vous entendez tous les féminins. Donc la Grèce vaincue a vaincu son féroce vainqueur, ce qui veut dire que, admettons que la femme, ça soit du féminin, la Grèce vaincue, elle a vaincu son féroce vainqueur, Rome en l'occurrence, mais les mecs, en les séduisant. Donc en étant plus attirante ou attirante pour eux. Et au fond, c'est ça qui, pour moi, est fini. Alors c'est peut-être fini parce que c'est peut-être une question d'époque, c'est peut-être une question d'âge aussi, de ma part. Mais ce n'est plus comme ça, je n'ai plus envie de séduire pour surmonter, de séduire pour gagner. Et je pense qu'il est grand temps qu'on fasse autrement. Mais pendant toute ma vie, je n'ai jamais été gênée d'être une femme. J'ai toujours considéré ça comme un avantage considérable, justement parce que je pouvais séduire. Et que ça ne gênait pas de séduire, moi.
Qu'est-ce que vous entendez par séduire ?
Séduire, ça veut dire utiliser tout ce qui est à ma portée, y compris la beauté, y compris d'être attirante, d'être chic ou d'être belle, si je pouvais. Enfin bon, voilà. Et j'ai toujours compris. Enfin, j'ai toujours. Alors, je vais vous raconter une autre histoire que je raconte dans Le bonheur, ça n'en douce à la mort. Mes parents étaient réfugiés et ils sont juifs, bon, comme moi, enfin ils étaient juifs parce qu'ils sont morts, bon, donc moi aussi, et ils étaient réfugiés en zone libre pendant la guerre. Mon père, alors ils étaient dans un petit village du Béarn qui s'appelait Navarinx. Mon père était commis épicier, là. Et il s'est passé beaucoup de choses que je raconte dans ce livre, parce que ma mère, comme mon père d'ailleurs, était peintre. Alors mon père, il était aussi avocat, et il fallait qu'il gagne du fric pour la famille, donc bon, il a arrêté de peindre. Maman a continué à peindre à la grande jalousie de mon père. Bon. Mais ma mère me peignait tout le temps, et pour me peindre, elle voulait voir mes yeux, et donc elle me racontait des histoires pour que je la regarde. Donc j'ai entendu toutes les histoires que je vais vous raconter de la part de ma mère pendant qu'elle me peignait. Bon. Et notamment celle-ci, Donc mon père était commis épicier dans ce village. Ils avaient été plus ou moins acceptés dans le village. Ils habitaient la maison de la putain, hein, en dehors, parce que c'était la seule qui était libre.
Oui. Bon.
Et puis, ils étaient plus ou moins acceptés. Malgré tout, ils n'étaient pas du lieu. Et donc, un jour, les Allemands ont frappé à la porte de la maison qu'habitaient mes parents. Et on dit à ma mère, vous, ça va, vous allez à l'église, mais votre mari, il est juif. Et ma mère, qui était extrêmement belle, et je dis ça et ça compte, elle s'est dressée dans la porte, c'est comme ça que je la vois, dressée dans l'embrasure de la porte, et elle a dit, moi, épouser un juif, jamais.
Bon. Ouais.
Donc, le mensonge comme art de combat. Oui. Je reviens un peu au début de ce que je vous racontais pour mon fils. Donc le mensonge comme art de combat, eh bien ils sont partis, les Allemands sont partis.
Et le mensonge de la belle femme, de la femme qui use de la séduction.
Voilà, je pense qu'elle aurait été moins belle, ça aurait moins bien marché.
Oui.
Là, les Allemands la respectaient pour sa beauté.
Mais, était impressionnante.
Mais c'est normal, enfin je veux dire, les Grecs aussi, ils ont un seul mot, kalos kagatos, qui veut dire belle et bon.
Tout à fait.
C'est un mot valise. Mm-hmm. Hein. Mm-hmm. Et ça veut dire quelque chose, ça veut dire que le dedans et le dehors, d'une certaine manière, s'entrappartiennent.
Tout à fait.
Ma mère, donc, dans sa beauté, a dit, moi, épouser un juif, jamais. Et les Allemands l'ont cru le temps d'une nuit pour que mes parents s'échappent. Avec leurs deux enfants, puisqu'ils avaient déjà deux enfants. Et mon père et ma mère sont partis, chacun de leur côté, avec les deux enfants. Ma mère m'a dit, oui, je sais ce que c'est que le Golgotha. Enfin, c'est atroce. S'échapper comme ça, avec un vélo, deux enfants, et ne pas savoir où aller, c'était atroce. Bon. Mais ça s'est fait, justement, comme ça. Et c'est ça que j'appelle séduire. C'est-à-dire, juste un instant, ça suffit. Mais il faut que cet instant vous sauve. Et c'était le cas.
Et c'est cet événement qui était déterminant pour votre goût, justement, pour les sophistes et pour toute cette question du mensonge et du...
Je ne peux pas dire que cet événement était déterminant. Ce que je peux dire, c'est que tout ça ne fait qu'un.
Ouais.
J'aurais peut-être pu justifier n'importe quoi avec ce... en racontant ça, si vous voulez. Mais en l'occurrence, en tout cas... le mensonge est quelque chose qui m'intéresse profondément. Et il y a un seul mot en grec, pseudos, pour dire le faux, le mensonge, la tromperie. Et vous voyez bien que Ulysse, dont je m'occupe en ce moment, puisque je fais les leçons de la chaire du Louvre et que là je parle de l'Odyssée, et de l'Odyssée comme un roman graphique, dont je parle beaucoup d'Ulysse, il se trouve que, ça continue à m'intéresser toujours. Et ce rapport au mensonge, ou plutôt au faux, ou plutôt à la tromperie, c'est quelque chose qui me paraît essentiel dans le rapport entre un homme et une femme. Mmh. Voilà, j'en reviens là.
Mmh. Alors peut-être que Michele veut vous poser une petite question.
Oui,
sur,
absolument.
Métier de philosophe.
Extrêmement intéressant. Et alors... on dit toujours aux jeunes, pas seulement aux jeunes, il faut que tu décides ce que tu veux devenir dans ta vie. Peut-être on se le dit à nous-mêmes quelquefois aussi quand on est plus jeune. Mais alors je voudrais vous poser une petite question. Est-ce qu'on peut décider de devenir une ou un philosophe? Et est-ce qu'il y a un moment dans votre vie qui a marqué une telle décision? S'agit-il d'une décision, Barbara Cassin?
Je ne sais pas, il s'agit d'un flux de vie, ce n'est pas une décision, c'est plutôt un flux. J'ai navigué dans la vie comme sur un fleuve et il se trouve que ça m'a amené là.
Vous avez quand même fait des études de philosophie,
oui.
Vous avez rencontré les plus grands professeurs de l'époque.
Absolument, voilà. Mais c'est justement pour ça que je parle de flux de vie.
Oui.
C'est-à-dire que je pourrais faire partir la chose d'un prof de philo que j'ai eu au lycée La Fontaine, que j'ai trouvé vraiment formidable en classe de philo. Elle n'était pas formidable peut-être, mais moi elle m'a dit deux ou trois choses qui ont été déterminantes. C'est-à-dire qu'elle m'a fait comprendre que quand on était philosophe, être philosophe de métier, ça voulait dire que son métier vous autorisez à se demander si Dieu existe, qu'est-ce que ça veut dire que la liberté, et des choses, que ça puisse être un métier de se demander si Dieu existe, par exemple, je trouve ça génial. Mmh. Donc, elle m'a fait comprendre que c'était possible. Mmh. Voilà. Donc, ça, il y a probablement eu quelque chose qui s'est passé là. Ensuite, il se trouve que j'étais en Hippocagne à Pasteur avec Michel Deguy comme professeur. Oui. Donc, Michel Deguy, il était à la fois poète, philosophe. Oui. Bon.
Grande figure de Paris 8 et du Collège international de
absolument.
Philosophie.
Absolument. On s'est jamais perdu de vue.
Oui.
Hein. Mmh. J'appartenais au Conseil scientifique quand il était président du Collège. Mmh. Donc, Michel Deguy, au fond, m'a montré la perméabilité intelligente entre la philosophie et le reste, entre la philosophie et la poésie. Et puis, il s'est trouvé qu'il y a eu 68 et que Deguy avait besoin des jeunes dont j'étais pour comprendre ce qui se passait. Et puis qu'on a fait des numéros de la revue de poésie, notamment un numéro génial de la revue de poésie de Michel Deguy. La revue de poésie de Michel Deguy, il avait commencé la première. Il avait commencé, je ne sais plus à quel numéro, mais mettons 10, mais c'était peut-être 40, j'en sais rien. Et il allait de 10 en 10. Il allait d'en haut vers le bas, de manière à ce qu'elle s'arrête, qu'il y ait un zéro et qu'il soit programmé. Mmh. Donc ça, c'était génial, le fait que ça doive s'arrêter. Voilà, un compte à rebours. Mmh. Et donc... J'ai collaboré à ce numéro 68, notamment. Et les choses... il se trouve qu'on a fabriqué une espèce d'université alternative en 68 qui se trouvait... mes parents avaient un appartement qui était libre, dans lequel je ne vivais pas parce que j'habitais chez mes parents, mais qui était libre. Et on a fait une université alternative dans cet appartement. Ça s'appelait la rue de l'Anneau. Et on a fait des photos de la rue de l'Anneau, on en a beaucoup parlé ensuite. On a fait des choses formidables. On a lu Pindare, on a lu Quintilien, on a travaillé avec un génial poète chilien qui s'appelait Godofredo Yomi, à Amunategui, qui était là et qui habitait, donc dans cet appartement, qui y dormait. Et on a fait énormément de choses qui m'ont finalement conduite à travailler avec François Fédier, avec beaucoup d'Heideggeriens, car Deguy était profondément Heideggerien, c'est-à-dire qu'il avait été... Ça ne veut pas dire qu'il croyait en Heidegger.
Non, non.
Ça veut dire qu'il lisait Heidegger, qu'il savait le lire, qu'il lisait Merleau-Ponty comme il lisait Heidegger, et que tout ça nous induisait dans un certain type de questionnement, très, très lourd, très profond, très violent, et en même temps très léger, puisque la poésie était toujours présente. Mais disons que Hölderlin n'était pas loin. Voilà. Mmh. Et donc, il s'est trouvé que tout ceci a fait que j'étais invitée par François Fédier, notamment, qui l'organisait au séminaire du Thor, c'est-à-dire le séminaire où Heidegger se rendait chez Char, chez René Char. Mmh. Et donc, c'est le moment où j'ai rencontré à la fois Char, Heidegger, à partir de là, on peut dire tout le monde.
Oui.
Tout un grand monde.
Mais ce que vous appelez le flux, finalement, le flux de vie, hein, qui a fait que vous êtes la philosophe que vous êtes à présent et que vous serez encore longtemps, c'est finalement, ça me fait beaucoup penser à la philia, en fait. Et c'est comme une forme de philia, c'est-à-dire... alors évidemment, l'amitié, aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi, mais quand on pense en philosophie à ce que signifie la philia et à Deleuze et Guattari, et qu'est-ce que la philosophie, les premières pages, hein, la philosophie, c'est la philia, c'est ça aussi le flux de vie, c'est-à-dire c'est des rencontres qui s'instaurent aussi sur un plan de pensée.
Absolument.
Voilà. Et sur un plan créatif qui fait que du coup vous persévérez dans votre être.
Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est du kairos, donc une bonne occasion.
Bonne occasion. Hein, ouais.
Une bonne occasion, une occasion propice qui se poursuit parce qu'on est dans le fleuve de la vie.
Voilà, ouais. Donc c'est la philosophie qui vous a rencontré d'une certaine façon aussi.
Bah, peut-être, enfin j'en sais rien. Mais de toute façon, pour se rencontrer, il faut être deux. Hein. Je ne sais pas si c'est la philosophie qui m'a rencontrée, je ne sais pas si la philosophie ça existe. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai rencontré des gens magnifiques dans ma vie. Et que, notamment, Char a été pour moi quelqu'un d'essentiel.
Et on sent aussi que c'est une période où c'est complètement décloisonné entre philosophie et poésie. Alors, je ne sais pas si ce que vous pensez d'aujourd'hui, est-ce que c'est recloisonné ou pas ? Est-ce que...
Ben, c'est recloisonné si on recloisonne. Mais là, par exemple, ce que je suis en train de faire au Louvre sur l'Odyssée, c'est évidemment décloisonné. C'est-à-dire que je peux lire l'Odyssée en philosophe. D'ailleurs, le sous-titre de ma chaire,
oui,
c'est Homère en philosophe.
Peu, oui.
Mmh. Voilà.
Oui.
C'est l'Odyssée au Louvre, un roman graphique. C'est-à-dire que je travaille à partir de la galerie Campana qui vient d'être rouverte, donc à partir de toutes les images de vases. J'essaye de voir ce qui se montre dans les vases et ce qui n'existe que parce que ça se dit ou que ça s'écrit dans les textes. Bon. Et puis, en même temps, je réfléchis en philosophe, c'est-à-dire que la première image que je montre, c'est Rembrandt avec Aristote en train de caresser la tête d'Homère, le crâne d'Homère. Bon, mais c'est bien comme ça, ça s'est toujours passé comme ça.
Mmh.
Et donc, je travaille en posant des questions de philosophe à Homère en attendant qu'il me réponde en philosophe, vous voyez.
Donc c'est bien décloisonné. Oui, on entend.
C'est très désagréable.
Ouais. Est-ce que, avant de passer à la musique, on peut peut-être encore poser une petite question. Là aussi, j'ai envie de vous demander, par rapport aux sophistes, hein, sur lesquels vous avez énormément travaillé, réfléchi, hein, vous avez fait le lien aussi avec le psychanalyste Jacques Lacan, et j'ai envie de vous demander aujourd'hui qui seraient les nouveaux sophistes.
Oh, j'en sais rien.
Ouais.
Je dirais, Lacan est à mon avis un très bon candidat, et c'est encore aujourd'hui. Il y a encore pas mal de lacaniens.
Il a encore la palme.
Voilà,
il a encore la palme.
Parce que c'est ce qu'il dit, lui. Il dit, oui. Le psychanalyste, c'est le sophiste contemporain avec d'autres attendus, d'autres, etc.
Alors, on va peut-être passer au moment musical. Hein. On va écouter la grande chanteuse du Cap-Vert, Cesaria Evora, qu'on appelle aussi la diva aux pieds nus en raison de son habitude à chanter aux pieds nus sur scène, avec Saudade. Alors, on croise votre univers, Barbara, puisqu'il s'agit d'un terme créole difficile à traduire, et vous êtes justement la spécialiste des intraduisibles, puisque vous avez dirigé un immense dictionnaire, hein, ça a pris plus de 15 ans, qui est un monument, hein, le vocabulaire européen de la philosophie.
Des philosophies, c'est au pluriel.
Ah, pardon, des philosophies.
Oui, que vous êtes.
Et Soda désigne aussi la nostalgie, terme difficile à traduire, mélancolie, tendresse, désir d'ailleurs. Et ici, justement, dans cette chanson, Cesaria Evora évoque la nostalgie d'une île, São Nicolau, alors que vous-même, Barbara, dans votre livre « La nostalgie, quand donc est-on chez soi ?», publié chez Autrement en 2013, vous écrivez sur votre rapport à la Corse, hein, qui n'est pas votre lieu de naissance, mais où vous vous sentez chez vous. Alors voilà, tout de suite, on va pouvoir... écoutez Saudade.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, desse minha terra, Saninclau. Saudade, desse minha terra, Saninclau. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando meio. Quem mostrava esse caminho longe,
es camino pa Santo Mé. Saudade, 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 es minha terra sem enclave. Saudade, 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 es minha terra sem enclave. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra, sem enclave. Saudade, 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 desse minha terra sem enclave. Saudade, 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 desse minha terra sem enclave. Saudade, saudade.
Voilà, c'était Soda de Cesaria Evora. Avant de continuer, peut-être vous voulez nous dire un petit mot sur cette chanson, Barbara
ou... Oh, c'est magnifique. Et ça, c'est un vrai intraduisible. Il existe dans le dictionnaire des intraduisibles, le vocabulaire européen des philosophies. Et c'est ce qu'il faut peut-être savoir, enfin, c'est qu'il y a tout un dispositif en lien avec ce Saudade. Par exemple, spleen. Mélancolie, d'or, qui est le terme roumain. C'est chaque fois que y a quelque chose qui ne va pas entre l'âme et le corps, c'est un autre endroit du corps qui est angoisse, c'est la gorge, le spleen, c'est la rate. Bon. Et à chaque fois, il y a un autre endroit du corps qui est le point d'accroche de ce malaise. Et on a beaucoup travaillé autour de tout ça. Et ensuite, c'est en portugais du Brésil qu'a été traduit le dictionnaire des intraduisibles. Parce que ce qu'il faut peut-être savoir, ce qui moi m'importe au plus haut point, c'est que le dictionnaire des intraduisibles est traduit, c'est-à-dire réinventé, dans une dizaine de langues aujourd'hui.
Oui, il continue de vivre.
Il continue de vivre et de vivre autrement. Oui. C'est-à-dire c'est un vrai flux. Mmh. Et aujourd'hui, il est en cours de traduction en Wolof. Par exemple, grâce à Souleymane Bachir Diagne.
Ouais, génial.
Ouais. Ouais, c'est formidable. Alors, chers auditeurs, nous sommes toujours sur Aligre FM 93.1 pour notre émission Philosophie au présent, en partenariat avec le Collège international de philosophie, en compagnie de notre invitée Barbara Cassin, pour nous parler de ce que peut une philosophe. Alors, Barbara, vous vous interrogez sur le pouvoir des mots depuis votre thèse sur la sophistique jusque dans nos réseaux et nouveaux médias, puisque vous en avez même fait un livre au titre à la sensualité quelque peu évocatrice, Google-moi. J'essayais d'avoir une voix sensuelle, mais c'est difficile. Mais qu'à tel terme.
Le sous-titre est beaucoup moins bien. Oui, la deuxième mission de l'Amérique.
Oui, voilà, la deuxième mission de l'Amérique, ça casse un peu.
Alors, Google, c'est quand même difficile.
Hein, ouais. Bon.
Aligre FM 93.1.
Alors, une philosophe, contrairement aux idées reçues, peut aussi faire rire, hein, surprendre. Et justement, parmi les différents passages croustillants, et il y en a beaucoup dans votre livre, hein, il y en a un qui m'a particulièrement marqué, hein, que vous racontez. Lorsque c'est toujours dans Le bonheur, ça dent douce à la mort, hein, au cours d'un repas avec une série d'intellectuels de loin, vos aînés, hein, soudain, vous dites devant... Alors, c'est la fin du repas, hein. Devant moi, le bref couloir s'est bouché. C'était René Char qui posait ses lèvres sur mes lèvres. J'ai mis les assiettes dans l'évier et j'ai gagné le jardin en flageolant comme un veau qui sort du ventre de sa mère. Voilà, alors ça, j'ai trouvé ça complètement épatant, inattendu, dans un livre de philosophie. Voilà, et donc, une philosophe peut faire rire, une philosophe peut aussi donner du courage, hein. Vous avez raconté, par exemple, qu'un jour, face à une terrible et titanesque et obscure déclaration d'impôt, vous vous êtes dit, j'ai compris par mes dites, je peux le faire, et voilà, chaque fois que moi je suis face à un monstre administratif, et il y a plein d'occasions, je pense à vous et ça me donne de la force. Voilà, vous êtes aussi, on l'a dit, une femme du moment opportun, du kéros, hein. Vous racontez comment ce que certains mettent des années à décider, envisager, réaliser, vous l'avez fait vous sans attendre. Je vous cite, page 210, bref, j'ai téléphoné un jour à Étienne, c'était votre mari, alors qu'il était en Afrique. Je voudrais un enfant, j'arrive. Nous avons fait un enfant, Victor. Et voilà, c'était plié, c'était réglé. Et donc, en plus de nous faire rire, de nous donner du courage, de nous inviter à saisir la vie quand elle est là, vous êtes aussi une femme engagée par la parole et par les actes, hein, et d'ailleurs vous en rendez compte dans votre livre, hein, quand dire c'est vraiment faire, hein. Et donc en 95, vous, aux côtés du nouveau président d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, et du prix Nobel de la paix, Desmond Tutu, vous avez contribué à la commission Vérité et Réconciliation, hein. C'était donc la fin de l'apartheid, donc préparer la transition démocratique, et là, victime et bourreau, ils racontaient ce qui s'était passé, alors non pas pour régler des comptes, mais pour pouvoir ensuite vivre ensemble sans revanche. Et on voit ici que la philosophie peut même aider à reconstruire une nation. Alors, Barbara, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer d'autres actes forts comme celui-ci ?
On peut imaginer que ça se fait ailleurs, que ça se fasse ailleurs, et ça s'est fait ailleurs d'ailleurs. Oui. Ça s'est fait au Rwanda, etc. Vous savez, j'ai pas contribué à la commission Vérité et Réconciliation. J'étais là.
Vous étiez là, oui, mais quand même.
Mais j'ai pas contribué. Je veux dire, ça s'est fait.
Moi, j'étais. Mais vous l'avez pensé, vous l'avez écrit, vous l'avez fait vivre dans vos écrits, quoi, quand même.
Oui, mais comme Derrida l'a fait aussi. J'ai fait venir les gens de la commission Vérité et Réconciliation en France, à l'école normale. On a fait on a fait pas mal de choses et on a beaucoup réfléchi. Mais j'aurais bien aimé contribuer, mais ça n'a pas été le cas. C'était là, vous voyez. Et c'était là et c'était public. Ça fait partie de la chose que ce soit public. C'est-à-dire que c'était les auditions. Les plus lourdes, les plus graves, étaient répercutées le dimanche, devant, à la télé, devant toute l'Afrique du Sud. Mmh. Et la commission se baladait de ville en ville. Enfin, je veux dire, le fait que ce soit public était la seule sanction. C'est très beau. Ouais. C'est-à-dire que... Et là, on rejoint Protagoras. Protagoras qui dit ce qui... Au fond, qu'est-ce qui fait la politique ? C'est Aidos et Dike. Aidos, c'est la conscience du regard de l'autre. Et Dike, c'est la juste répartition, la justice. Mais Aidos, c'est ça qui était le moteur même de la réconciliation, ou plutôt du vivre ensemble. Je me souviens, et ça m'avait beaucoup marqué, d'une séance. Où, donc, il faut savoir que les bourreaux et les victimes, ou ceux qui restaient des victimes, hein, étaient réunis et parlaient. Mmh. Et il y avait des sessions. Bon. Et la ruse de la commission Vérité et Réconciliation, la ruse du dispositif, c'est que ceux qui auraient eu intérêt à cacher devant n'importe quel tribunal avaient intérêt à dire. Il fallait... tout ce qui était dit était amnistiable et, sous certaines conditions, amnistié. Mmh. Ce qui n'était pas dit était punissable et puni. Bon. Donc, tous ceux qui auraient voulu cacher, finalement, avaient intérêt à parler. Et cet échange-là, c'est la commission Vérité et Réconciliation. Et alors, je voudrais dire deux composantes. La première, c'est que la très belle définition de l'amnistie, c'est la liberté en échange de la vérité. Mmh. C'était ça, la définition de l'amnistie.
C'est beau, hein.
Et la deuxième composante qui, moi, m'a passionnée, c'est qu'il s'agissait d'avoir « enough of the truth for », assez de vérité pour, pourquoi faire ? Pour construire le peuple arc-en-ciel. Et donc, c'était ça, la commission Vérité et Réconciliation. Assez de vérité pour. Et ça ne se faisait qu'avec les mots, ça évitait un bain de sang. Le bain de sang, il y avait eu un bain de sang qui avait déjà eu lieu, hein, quand même. Mais pas là, tout se serait arrêté. Il y aurait eu un vrai bain de sang et absolument rien d'autre que ça. Alors que là, eh bien, il a pu se passer « one man, one vote », un homme, un vote. Bon. Mmh. Et donc, on a pu construire le peuple arc-en-ciel, la nation, oui. Bon, reconstruire complètement. Et vous voyez bien que aujourd'hui, alors moi, c'est une idée folle, mais une idée folle quand même à laquelle j'aimerais qu'on réfléchisse.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire entre Israël et la Palestine ?
Voilà. Mmh.
Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on ne peut que faire un pas de côté, hors des armes. Mmh. Comment ? Ben avec les mots. Mmh. Et lesquels ? Eh bien, peut-être ceux-là. Alors, il faut savoir, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de conditions pour qu'une commission Vérité et Réconciliation efficace puisse se tenir. L'une d'entre elles, c'est qu'on ne s'en mêle pas. Il n'y a que les deux peuples, si j'ose dire, les deux...
Qui parlent.
Hein, qui parlent.
On leur donne la parole.
On leur donne la parole aux deux. Et c'est eux qui règlent leur truc. Bon, les deux parties de l'Afrique du Sud, hein, les deux parties de l'apartheid, là, les deux parties de... Bah, c'est quelque chose comme un apartheid, malgré tout, qui a lieu avec une frontière commune entre Israël et la Palestine. Bon, enfin, vous voyez...
Il y a ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait aussi une grande figure politique et de résistance. Il faut aussi des grands hommes. Hein.
Absolument.
On ne va pas faire notre Hegel au petit pied. Mais...
Eh bien, vous avez complètement raison. C'est-à-dire que, justement, j'étais au Monde Le Mans, là. Bon, et je disais, admettons, on peut peut-être trouver... il n'est pas impossible. Il y a quelqu'un qu'on compare à Mandela qui croupit dans les geôles d'Israël. Peut-être qu'il existe. Bon. Mm-hmm. Mais alors, en revanche, qui serait de Klerk ?
Oui. Hein ?
Et ce n'est pas que de Klerk était un type très bien. Mais enfin, quand même. Mm-hmm. Oui, il existait, il était là.
Voilà.
Ben, mm-hmm. Là, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Bon. Michele, tu avais envie de poser une question
change...
par rapport au collège.
Oui, on change un peu. Et Stéphanie nous l'a déjà mentionné au début de l'émission. Et il y a un tout petit livre, très joli. J'ajoute aussi, qui vient de paraître, qui sera en commerce en mars 2024, oui, si je ne me trompe pas. Donc, c'est Une institution sans condition, brève histoire du Collège international de philosophie. Donc, je vous rappelle brièvement la structure. Il a 20 propos de Barbara Cassin, Michel Gendreau-Massalou. Et après, il y a le Collège international de philosophie, Une institution sans condition de Julie Clarini, une chronique, j'ajoute, magnifiquement écrite, hein, vraiment passionnante, extrêmement passionnante. Et après, il y a la postface, La philosophie du Collège, demain, hier, aujourd'hui, d'Alain Patrick Olivier, c'est-à-dire de notre président de l'Assemblée collégiale.
Oui, du Collège international de philosophie.
International de philosophie. Et alors, je voudrais lire sûrement quelques lignes de l'avant-propos qui a été écrite par Barbara Cassin et Michel Gendreau-Massalou, sont vraiment trois lignes. À qui demande où s'est fait la philosophie aujourd'hui ? Il faut répondre au CPH, Collège international de philosophie, mais en ajoutant « malgré ». Et alors, Barbara Cassin, c'est quoi ce « malgré » ?
Alors, ça, c'est... on a écrit vraiment à quatre mains. Et ces phrases-là, celles du premier paragraphe, c'est Michel Gendreau-Massalou qui les a écrites. Et c'est elle qui a écrit, il faut répondre, au CIF, en ajoutant « malgré ». Et elle raconte pourquoi tous ces malgré qui sont à la fois institutionnels, internes, internes et externes, je veux dire, qui sont liés à la situation du collège par rapport au ministère. Moi, quand j'étais au collège international et que j'étais en responsabilité, j'allais voir les ministres et surtout les sous-ministres qui n'établissaient plus la ligne de crédit ou la barraient, en leur disant « Bon, bah, écoutez, alors je vais faire un article dans le Canard enchaîné demain. » Ils me disaient « Dans le Canard enchaîné ?» Je dis « Non, dans le Canard enchaîné, dans le Monde, dans le Figaro, dans, dans Times, etc. » Et on avait la ligne. Ça se passait comme ça, c'est-à-dire que c'était vraiment « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette tout le temps. » Donc, c'est ça, c'est malgré. C'est déjà les malgré institutionnels. C'est-à-dire qu'à la fois, on a beaucoup de marraines qui ont beaucoup... On a trois ministères qui sont les marraines, les parrains et les marraines du collège et qui ont toujours joué leur rôle, sauf quand ils tenaient pas leurs promesses, quoi. Et puis qu'il fallait toujours quand même arracher les promesses qui sont d'abord financières. Oui. Et puis, pas seulement, parce qu'il y a aussi des problèmes de postes. C'est-à-dire que le collège ne peut pas marcher sans une infrastructure avec des postes. Et puis, il y a eu, pour moi, quelque chose d'extrêmement triste, qui est que le collège est quelque chose qui, une institution sans condition, justement, qui pouvait être la seule en France à avoir à la fois des professeurs du secondaire, des professeurs du supérieur, et des extérieurs.
Tout complètement. Des chargés de cours.
Des chargés de cours, mais voilà, même des extérieurs. Même c'est-à-dire un ingénieur
tout à fait.
Peut être un artiste. Bon, c'est ça, un artiste, sans condition, vraiment.
Il n'y a pas de titre.
Il n'y a pas de titre requis. Oui. Et puis, au CNRS, moi je suis rentrée au CNRS, peut-être que vous parlerez de mon parcours après, mais je suis rentrée au CNRS comme venant du secondaire. Oui. C'était des postes qui existaient encore. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait passer du secondaire au chercheur.
Oui, j'ai été très surprise en lisant votre biographie. Oui.
Ça n'existait plus. Et ça s'est mis à ne plus exister.
Tout à fait.
À mon grand désespoir. Parce que je pense que c'était essentiel. Et que c'était essentiel au collège de pouvoir avoir des postes du secondaire qui auraient pu devenir chercheur, devenir supérieur, etc.
Bon. Oui, j'aimerais simplement qu'on rappelle un tout petit peu à nos auditeurs, qui nous suivent certainement depuis un petit moment, depuis au moins les 5 ans, mais que nous sommes en train de parler de la fondation du Collège international de philosophie, et que vous, Barbara Cassin, y êtes une grande figure. On rappelle à nos auditeurs que c'est une institution très particulière en France, qui est presque beaucoup plus connue à l'étranger, si ce n'est beaucoup plus connue, via d'ailleurs toutes les études autour de la French Theory et autour de Derrida notamment. Très connue aux États-Unis, alors qu'en France, c'est une institution qui est minorée. La philosophie au présent, l'émission dans laquelle vous nous faites l'honneur de venir aujourd'hui et qui est une émission dont vous êtes l'origine. Hein. Le Collège international de philosophie est une institution très à part dans le paysage français puisqu'il permet à des gens qui n'ont pas de poste finalement, mais qui sont chercheurs, de faire part de leur recherche de manière gratuite à un public qui est accepté, quel que soit ce public. On n'est pas à l'université, on a de la véritable recherche, vous pourrez certainement nous en parler, puisque vous-même d'ailleurs, vous avez porté à la connaissance de gens qui viennent de tous horizons comme public, votre recherche en cours. Jacques Derrida, il faudrait rappeler votre rapport à Jacques Derrida dans cette institution, à penser aussi une institution sans condition. Donc je voulais refaire un petit peu, on a fêté les 40 ans d'existence de cette institution, vous avez contribué aussi à faire vivre. Vous êtes les grandes figures de cette institution. Un peu pour remettre un peu à nos auditeurs.
Oui, c'est essentiel de comprendre ce sans condition.
Tout à fait.
Et c'est pour ça le titre choisi par Julie Clarini est très juste et lié au rapport bleu.
Oui.
C'est-à-dire au rapport de fondation, écrit notamment par Derrida, mais pas seulement.
Oui, on rappelle que le Collège international de philosophie a été fondé par Jacques Derrida, François Châtelet, Dominique Lecourt, Jean-Pierre Fay, j'ai oublié qui. J'ai oublié personne.
Je crois que c'est ça.
Et il y avait au pourtour des gens comme Jean-François Lyotard. Enfin, il y avait des gens qui suivaient comme ça. Michel Deguy était présent. Enfin, il y avait une grande.
Christine Bussy-Glucksmann.
Tout à fait, absolument. Ce sans condition, qu'est-ce qu'il a signifié pour vous, puisque vous avez été dans les grandes instances du CIPA, je vous l'avais. Voilà.
Mais si j'ose dire, je suis rentrée comme séminariste. C'est-à-dire que je faisais.
Très jolie.
Ça s'appelle ça. Oui, nous avons des séminaires de recherche au Collège international de
Donc,
philosophie.
Donc, c'était le premier séminaire de recherche que j'ai fait dans toute ma vie, hein, oui. Avec Michel Narcy, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
On avait fait un ovni qui s'appelait Présocratique et postmoderne. en réfléchissant, nous sommes deux hellénistes, on réfléchissait à partir, intéressés par la sophistique, oui. Travaillant sur Aristote. Bon,
et vous avez organisé un colloque d'ailleurs, oui. Dans lequel Deleuze serait venu, c'est ce que j'ai lu.
Sur la sophistique.
Sur les sophistes et la modernité.
Oui,
hein, c'est
oui.
Tout ça.
Oui, oui, ça ouais. A été publié. Ouais. Oui, oui. En effet, il y a eu Deleuze, De Guy, Ricoeur.
Donc vous nous parliez de cet ovni, etc. Dans votre séminaire.
Ben oui, cet ovni présocratique et postmoderne, vous entendez bien Lyotard,
oui.
Là.
Oui. Oui.
Donc c'était rien que du plaisir, hein, d'arriver à parler complètement librement, sans aucun attendu de la part de personne.
Oui.
Sauf notre liberté.
Oui.
Et la liberté de ceux qui écoutaient et qui venaient parce que ça les intéressait. Et qui n'étaient absolument pas forcés de revenir la semaine d'après.
Oui, il ne s'agit pas d'un rapport prof-étudiant.
Jamais.
Et on rappelle que, bon, c'est François Mitterrand avec Jean-Pierre Chevènement qui a permis la création de cette institution au moment où Mitterrand, voilà, prêtait oreille aux philosophes et qu'il avait besoin d'eux aussi, qu'il a eu besoin d'eux aussi pour se faire élire, disons-le, et que le CIPH a été aussi un prêté pour un rendu.
Probablement. C'est-à-dire que, du coup, le CIPH a toujours été en même temps un endroit de philosophie, c'est-à-dire aussi de politique.
Tout à fait.
Bon.
Absolument.
Et c'est comme ça qu'il a été connu.
Oui.
Et c'est peut-être ça qui lui manquerait aujourd'hui.
Et on rappelle aussi que c'est suite aussi au gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, d'Alice Saunier-CIT, qui, avant la création en 83, il y a eu au moins une vingtaine d'années de volonté de certains gouvernements de faire disparaître la philosophie de l'enseignement du secondaire.
Oui.
Donc le Collège international de philosophie est né finalement aussi comme une résistance à une volonté de faire disparaître la philosophie dans le secondaire.
Oui, c'était une résistance. De toute façon, c'est une résistance complète, toujours.
Oui.
À l'époque, quand même, Derrida proposait de la philosophie dans les toutes petites classes.
Tout à fait.
Ça, c'était quand même passionnant.
Avec Jean-Luc Nancy, qui a fait des expérimentations
Donc
là-dessus.
Ça, c'était passionnant. Oui. Moi, d'ailleurs, il y a beaucoup moins longtemps que ça, je ne sais plus, il y a peut-être 15 ans, j'avais fait de la philosophie dans les maternelles.
Oui.
Et c'était génial.
Génial.
Mais génial. Je peux vous raconter juste 3 secondes une anecdote. C'est on allait dans une classe où déjà rien que proposer le micro pour que chacun puisse parler à son tour, c'est déjà un truc formidable en maternelle.
Mmh.
Ça veut dire qu'on ne s'interrompt pas, on n'interrompt pas l'autre, on ne le recouvre pas, mais on parle.
Mmh.
On parle
soi. Comme le bâton de la parole. Quoi.
Absolument, c'est le bâton de parole. Et alors on avait posé la question, alors est-ce que t'es grand ou est-ce que t'es petit? Et alors il y a un enfant qui a répondu, mon petit frère dit qu'il est grand, et c'est vrai.
Le temps passe, les amis, malheureusement ça passe trop vite. C'est le moment de notre rubrique, de la rubrique de Michele Saporiti qui s'appelle La Flânosophie, juste après la petite musique.
Écoutez Aligre FM 93.1.
Chères auditrices, chers auditeurs de Aligre FM, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite rubrique de ce petit divertissement de philosophie au présent qui s'appelle Flânosophie. Et aujourd'hui, cette flânosophie est dédiée à Barbara Cassin. L'invitation est toujours la même. Essayez de mettre de côté votre portable, encore pour un instant, mais cette fois, je vous invite à faire aussi un petit geste. Passez vos doigts sur une surface. Maintenant, regardez attentivement vos doigts. Y a-t-il une substance presque transparente, plutôt impalpable, mais toujours présente? Si votre réponse est oui, et donc vous n'avez pas trouvé les traces de votre gourmandise, vous avez rencontré l'objet flânosophique d'aujourd'hui, la poussière. Ce n'est peut-être pas si agréable de penser, de flâner ou de flânosopher dans la poussière. Mais si nous réfléchissons attentivement, flâner dans la poussière, c'est exactement ce que nous faisons constamment. Nous sommes immergés dans la poussière, au mieux, nous sommes sans relâche immergés dans plusieurs types de poussière. Mais quel type de poussière nous entoure et nous envahit? Et quelle typologie spécifique de poussière entoure et envahit le flânosophe? Aujourd'hui, je vous propose quelques rapides notes pour développer un irrévérencieux essai de phénoménologie de la poussière philosophique. Et alors, après l'être et le temps, après l'être et le néant, pourquoi pas l'être et la poussière? Il y a avant tout la poussière conceptuelle, qui est la poudre à canon de philosophe. Les idées, les concepts, les catégories, les essences, la pensée d'une ou d'un philosophe est nourrie par ce genre de particules conceptuelles qui changent leur substance, leur combinaison et leur poids. Ensuite, nous avons la poussière phonétique, qui est le feu qui allume la poudre à canon de philosophe. Le mot, le terme, les expressions, les vocables, inventés ou simplement utilisés, mais aussi les silences. Oh, les discours de philosophes, les dialogues, les traités, les manifestes, les récits, mais aussi les poèmes. Il y a toute une panoplie des modalités à travers lesquelles la poussière langagère s'exprime et donne une forme à la poussière conceptuelle des philosophes. Enfin, dans notre liste si brève, il y a aussi la poussière prête à porter. Lorsqu'une idée géniale est conçue, formulée et développée, elle vit souvent de sa propre vie. On peut la retrouver partout et se faufile partout avec le risque que cette idée géniale soit utilisée par n'importe qui, y compris de manière inappropriée, c'est-à-dire sans savoir ni sa signification authentique, ni les malentendus qui peuvent être créés s'il est maladroitement manipulé. Mais à un certain point, dans le cadre du travail pour la composition de notre essai irrévérencieux sur la poussière philosophique, nous arrivons à poser une question essentielle. Une fois que la poussière conceptuelle a été enflammée par la grandeur phonétique des philosophes, est-ce que la poussière change et se transforme en quelque chose de différent? Peut-être oui, cher philosophe, parce que la sans poussière, une fois enflammée, semble avoir laissé sa place à une autre substance qui nous rappelle la mesure humaine de chaque pensée, de chaque entreprise intellectuelle, la cendre. Une matière qui peut être très féconde, mais qui témoigne aussi de la mémoire d'un passage qui nous regarde et qui nous concerne. Il y a un passage plutôt célèbre du Cymbeline de William Shakespeare. « Fear no more the heat of the sun, nor the furious winter's rages, though thy worldly task has done, all might gone and ta'en thy wages, golden lands and girls on must, as chimney sweepers come to dust. » Nous sommes toutes et toutes destinés à faire retour à la poussière, nous rappelle le philosophe William Shakespeare. Et nous savons bien que chaque fois qu'il y a l'énième conflit ou l'énième guerre, nous semblons avoir perdu cette conscience première. Mais c'est justement là que la philosophie peut manifester l'immense puissance qu'il y a à l'intérieur de la fragilité extrême de la pensée. Et donc je crois que mon petit et révérencieux essai de phénoménologie sous la poussière philosophique pourrait bien se conclure avec la phrase suivante, cher philosophe. Ayez confiance dans la faible poussière des philosophes, parce que souvent, ils ont manifesté leur capacité de transformer la poussière en cendre et la cendre en espérance de vie et de changement.
Merci, cher Michele, pour cette magnifique philosophie sur la poussière.
Et sans plus tarder, je passe au petit questionnaire pas trop rationnel destiné à nos invités. Voilà, alors des petites questions très rapides, sans réfléchir, Barbara Cassin. Première question, quel est votre rêve d'enfant?
Mais je ne sais pas. Mon rêve d'enfant, c'était de continuer à être enfant, je pense.
Deuxième question, est-ce qu'il y a des choses qui restent mystérieuses pour vous?
Toutes.
Si vous étiez ministre de la Culture, quelle première décision aimeriez-vous prendre?
Démissionner.
À quel animal pourriez-vous associer votre recherche?
Quand même un chat.
Oui. On est d'accord. Quel personnage auriez-vous aimé rencontrer et pour lui dire quoi ?
René Char, Michel Deguy, Martin Heidegger, Jacques Lacan.
Voilà, bon. Ben, merci beaucoup pour ces réponses très rapides. Oui. Et on va terminer notre émission. Nous aimerions bien rappeler à nos auditeurs quelle est votre prochaine échéance. S'ils veulent vous voir au Louvre, vous nous avez dit, vous allez intervenir.
Ce lundi soir, mais je crois que ça affiche complet.
Bon, voilà. Bon, eh ben, peut-être qu'il va y avoir une captation et vous allez intervenir. Sur quoi exactement, rappeler à nos auditeurs ?
Eh bien, je travaille sur la manière de faire de l'Odyssée un roman graphique, ouais. Grâce au... Enfin, qu'est-ce qu'on voit dans les images ? Comment s'articule la beauté des images et la beauté des textes ?
Très bien. Bah, ceux qui auront la chance d'écouter Barbara Cassin lundi soir, voilà. Peut-être y aura-t-il une captation et qu'on pourra le voir plus tard. On espère vraiment vous revoir ici à ce micro pour un prochain ouvrage ou pour avoir tout simplement le plaisir de dialoguer avec vous. On a été ravis de recevoir Madame l'académicienne. On ne l'a pas assez dit quand même. Il n'y en a pas eu beaucoup des femmes académiciennes. Voilà. Voilà. Entre autres, grande philosophe. Et puis voilà, celle qui est aussi à l'origine de Philosophie au présent avec Isabelle Fondari, et nous avions noté aussi Patrick Léon-Émile, voilà, que vous aviez rencontré et qui nous avait fait venir, et qui est aussi avec vous à l'origine de cette émission Philosophie au présent qui existe depuis 2017.
Mes amis. Qui touche à sa fin.
Et qui touche à sa fin.
Donc nous remercions Radio Alivre et tout particulièrement à la technique Enrico qui nous a accompagnés pendant toute
cette
émission.
Merci Enrico.
Vous pouvez retrouver toutes les références sur le podcast d'aligrefm.org et je vous annonce simplement la prochaine émission, le 27 janvier 2024 sur la laïcité en question avec Rabeh Rachi et Martine Cohen. Merci beaucoup.
Merci
Barbara Cassin.
Merci
à vous beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée.
Bonne journée.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.